Le Mac de l'Immo, la matinale info et rencontres dédiée à l'immobilier, en direct sur Radio Immo.
Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Immo, bienvenue dans le Mac de l'Immo, votre émission hebdomadaire, vous le savez, c'est chaque vendredi de 8h à 9h30. En première partie, on fait le point sur l'actualité, on regarde les sujets passionnants qui vous intéressent si vous êtes un professionnel de l'immobilier, mais pas que si vous êtes locataire, si vous êtes propriétaire ou si vous avez envie de le devenir. Et puis, en seconde partie d'émission, on accueille un invité. Aujourd'hui, c'est Denis Moscovici, les senior advisors pour l'IEIF. Donc voilà, il sera avec nous dans 45 minutes précisément pour nous parler d'ailleurs d'une nouvelle étude. On en parlera plus en détail avec lui. Durant cette première partie, beaucoup de choses. On va évidemment faire un point sur le congrès HLM de l'USH, l'Union sociale de l'habitat, puisque nous l'avons couvert avec Radio Immo. On fera un point également avec la FFB. Grand Paris et Île-de-France, hein, puisque donc c'est la Fédération française du bâtiment, et c'est vrai que ça va pas fort pour le bâtiment en ce moment. On fera un point du coup sur la conjoncture avec le vice-président Édouard Durier, et puis on parlera également de la PropTech avec Jean-Michel Royot, qui nous fera découvrir une start-up IMO comme chaque semaine. C'est parti pour le Mac de l'IMO.
Le Mac de l'IMO, en partenariat avec Opinion System. Promis, t'es bien ici.
Comme chaque semaine, on fait un point sur l'actualité. Qu'est-ce qu'il s'est passé dans la presse cette semaine ? Eh bien, réponse avec Vincent Favreau pour la revue de presse. Bonjour Vincent.
Bonjour. Dans la revue de presse, on commence avec Le Figaro, avec cette chanson de Dalida. Encore des taux, toujours des taux, rien que des taux. Mais oui, les taux des crédits immobiliers, ils font couler beaucoup d'encre, notamment dans Le Figaro, avec ces taux qui, en janvier, s'élevaient à 3,57%. Depuis le 1er octobre, ils s'approchent des 6%. Après avoir franchi le cap des 5% pendant l'été, les taux qui dissuadent donc les Français d'acheter, la production de prêts immobiliers a chuté de 45% en juillet sur un an à 12 milliards d'euros selon la Banque de France. Et la demande de crédit a continué à fléchir depuis l'été, c'est le constat des banques et des courtiers. Car avec des taux passés de 1,2% en moyenne sur 20 ans en janvier 2022 à 4,3% aujourd'hui, le pouvoir d'achat immobilier des ménages s'est fortement réduit. Pour une même mensualité, un couple gagnant 10 000 euros par mois pouvait emprunter jusqu'à 700 000 euros en janvier et seulement 540 000 aujourd'hui. C'est ce qu'a calculé Meilleur Taux, le papier qui met en avant un graphique très explicite sur l'évolution des prix immobiliers en région sur un an, aussi dans le Figaro. Car si les chiffres nationaux donnent la tendance, on voit que suivant les territoires, les chutes peuvent être plus vastes. Pour les appartements, moins 4,1% au niveau national, mais moins 6% en Bretagne, moins 8% en Île-de-France et en Pays de Loire, moins 13% dans les Hauts-de-France. Pour les maisons, moins 2% au niveau national, moins 7% dans le Grand Est et moins 10% en Île-de-France, moins 12% en Centre-Val de Loire. Vous retrouvez toutes les régions dans le papier du Figaro. Continuons en parlant de la TEOM ou TOM. Connaissez-vous la TEOM ou TOM? Et pourtant, nous sommes toutes et tous concernés. C'est la taxe sur l'enlèvement des ordures ménagères. On est sur planète.fr avec les 10 villes où la facture va exploser, car les propriétaires vont subir cette année une augmentation conséquente de cette taxe. En moyenne, plus 2,2% sur les 192 villes de plus de 40 000 habitants dans le pays, selon une étude menée via le cabinet FSL, avec quelques villes où la taxe a explosé, je vous le disais, plus 10% à Nice, à Cagnes-sur-Mer, plus 14% à Aix-en-Provence, plus 3,3% à Ivry. Retrouvez dans l'article un diaporama des 10 villes où les taux augmentent le plus. On termine sur tf1info.fr avec le dernier coup de pouce du gouvernement qui va en bénéficier. Le gouvernement a annoncé début octobre le classement en zone tendue de 154 communes où sévit une grave crise du logement, dont beaucoup de villes de la façade atlantique ou de montagne sont concernées. concernées, mais aussi certaines villes moyennes. Elle va permettre cette nouvelle zone tendue à davantage de ménages de se loger, c'est la volonté. Et parmi les villes, on compte Arras, au nord, mais aussi Cholet, Le Mans, Troyes, Évreux, Besançon, Gap ou Colmar, ainsi que beaucoup de villes de façade atlantique, je vous le disais, comme Brest, Cabourg, Paimpol, Perros-Guirec, Lorient, et puis Vannes aussi, Royan, Rochefort ou Lacanau, nous dit TF1 Info. Et le site de donner des exemples précis avec ces ménages qui galèrent à acheter et pourraient, grâce au classement en zone tendue de leur commune, bénéficier par exemple du prêt à taux zéro. Autre possibilité, celui de relancer les constructions. Ça ne va pas redresser le marché du neuf, mais permettre de remettre de la fluidité dans les possibilités de construction dans ces communes. Ce sont plus de 150 communes qui sont arrivées dans les dispositifs des zones tendues. Et vous retrouvez l'article complet dans le podcast de la revue de presse de Radio Immo sur le site et l'appli Radio Immo.
Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici.
De retour dans le Mac de l'Immo, on est ravis d'être avec vous. Dans quelques instants, on écoutera Édouard Durier que j'ai eu en interview pour parler justement de la conjoncture du bâtiment. Mais tout de suite, on parle des crédits immobiliers puisqu'on apprend dans le Parisien que jamais aussi peu d'argent n'a été prêté par les banques depuis mars 2016. Le montant total des nouveaux crédits immobiliers pour le mois d'août s'élève à 9,9 milliards d'euros, donc juste en dessous de 10 milliards d'euros. Donc c'est la première fois depuis 7 ans. Il faut dire que les taux ont cruellement augmenté. Ils ont été multipliés par 3,5 en moins de 18 mois. Forcément, les acheteurs sont moins nombreux. Ils peuvent moins acheter, ils sont souvent dans l'attentisme puisque pour l'instant les prix ne descendent que très peu. Et puis il y a également les banques qui prêtent moins à cause de ces fameuses règles fixées par le HCSF, le Haut Conseil de la Stabilité Financière, qui sont assez strictes. Donc voilà, on apprend ça dans le Parisien. Jamais aussi peu d'argent n'a été prêté par les banques depuis mars 2016.
Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici.
Bienvenue sur Radio Immo, on est dans le Mac de l'Immo comme chaque vendredi de 8h à 9h30 et je rappelle que tout à l'heure notre invité sera Denis Moscovici qui est senior advisor pour l'IEIF qui est l'Institut de l'épargne immobilière et foncière, donc un institut indépendant. Avec lui on va parler d'une étude qui est sortie cette semaine, donc ça ce sera à partir de 8h45, mais tout de suite on parle du plus grand bâtiment de France conçu pour toutes les formes de handicap et c'est à Paris. On écoute Vincent Favreau.
Paris va accueillir prochainement le plus grand bâtiment de France conçu pour accueillir toutes les formes de handicap. Cité universelle, c'est son nom, verra ses travaux débuter en 2024 car la ville de Paris vient d'accorder son permis de construire. Un grand projet avec 6 usages différents, la médecine, le sport, l'hôtel, les bureaux, les commerces. Ce sera d'ailleurs le plus grand hôtel avec 100% des chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite, 109 chambres accessibles en fauteuil, le plus grand stade pour les personnes handicapées, 200 places accessibles sur les 1000 en tribune. Il pourra héberger des compétitions internationales de handisport. Les plus grands plateaux de bureaux accessibles aussi. 6 plateaux de bureaux, environ 20 000 m² seront disponibles dans ce projet. Et 8 salles de consultation médicale également. Un bâtiment qui prendra place en face de la Philharmonie et viendra ainsi transformer une des portes de Paris, la porte de Pantin, en améliorant l'espace public. Un lieu qui fait lien comme l'est Riyad Salem, le porteur du projet, champion de handisport. Sport, entrepreneur, dirigeant associatif, humaniste, un homme de conviction et de combat qui a été dans les premiers à porter cette idée un peu folle de créer un lieu mixte adapté à tous les handicaps. Un très grand projet important dans la prise en compte des personnes en situation de handicap dans la société. Le constructeur GA Smart Building prévoit une livraison en 2027.
Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici.
De retour dans le Mac de l'Immo, on est ensemble jusqu'à 9h30. On va écouter tout de suite Édouard Durier, puisque la FFB Grand Paris Île-de-France a donné une conférence de presse cette semaine sur la situation assez dramatique concernant la conjoncture du bâtiment. Édouard Durier, c'est le vice-président en charge des affaires économiques, donc de la FFB, la Fédération Française du Bâtiment, Grand Paris Île-de-France. Bonjour, bienvenue sur Radio Immo. J'accueille tout de suite Édouard Durier, le vice-président en charge des affaires économiques de la FFB Grand Paris Île-de-France. Bonjour Édouard Durier.
Bonjour.
Alors la FFB Grand Paris Île-de-France a donné une conférence de presse en début de semaine. Et c'est vrai que vous avez commencé cette conférence en disant que c'était pire que la dernière conférence. Alors un petit mot pour résumer la situation de la Fédération française du bâtiment, des entreprises du coup que vous représentez.
Ah bah alors effectivement, on dit que c'est pire parce que nous, plus ça avance et plus on s'inquiète. On s'inquiète sur l'absence de mise autorisation des chantiers. On s'inquiète sur les trésoreries des entreprises qui baissent. On s'inquiète sur des aides qui n'arrivent pas, une rénovation énergétique qui ne décolle pas comme elle devrait décoller. Voilà, on avait promis plein de choses il y a quelques temps. Et puis ces promesses, pour l'instant, n'arrivent pas, ou en tout cas, les projets n'arrivent pas. Et nous, on a des carnets de commandes qui baissent. Alors, on entend dire aujourd'hui que l'activité est toujours présente. C'est vrai, vous vous baladez en Île-de-France, vous voyez encore des grues, des chantiers, tout ça, ça tourne. Mais on est sur des fins d'opération et on a une année 2024 qui se pointe avec forcément des carnets de commandes en baisse, donc des volumes qui vont baisser, des PGE à rembourser pour certaines entreprises en fin d'année. Donc voilà, les défaillances qui augmentent. Bon, tout ça nous inquiète fortement, et beaucoup plus, encore plus que la dernière fois.
Alors là, vous parlez de, donc vous avez dit, je reprends vos mots, la rénovation énergétique ne décolle pas. Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Est-ce que c'est les Français qui ne sautent pas encore le pas? Bon, après c'est vrai que c'est compliqué, hein, on comprend pas trop les aides, etc. C'est quoi en fait le souci?
Alors c'est exactement ça. Il y a un manque de clarté des aides, même pour certains professionnels comme nous sommes.
Oui, c'est vrai. Hein.
On a du mal à conseiller correctement nos maîtres d'ouvrage. Il y a un vrai problème de coût, bien sûr, puisque les matériaux ont augmenté. Il faut pouvoir permettre de proposer aux maîtres d'ouvrage des offres globales. Il y a des copropriétés qui aujourd'hui ne lancent pas de travaux en disant ben non, c'est trop cher, on comprend rien. Les pouvoirs d'achat des Français ont baissé, on ne va pas les embêter avec ça. Il y a des maîtres d'ouvrage qui sont des bailleurs qui trouvent que le retour sur investissement est tellement peu intéressant ou trop long qu'ils ne lancent pas d'opérations ou ils en lancent moins. Voilà, c'est toute une conjoncture. Et puis, comme on annonce une crise pour 2024, il y a une crise immobilière qui est du logement et de la construction qui est très présente. Et on entend partout qu'il va y avoir une crise économique importante. Donc, forcément, les gens, ils vont pas du tout se lancer dans des travaux de rénovation énergétique. Alors qu'il y a une vraie urgence. Au niveau de la planète, on le voit aujourd'hui, on le subit tous. Il y a une vraie urgence à lancer de la rénovation énergétique. Je le disais l'autre fois, mais je le dis avec encore plus d'insistance cette fois-ci. Il faut absolument que, je sais pas, moi, on pourrait inventer des défiscalisations spéciales sur de la rénovation énergétique. Ça permettrait au pouvoir public de récupérer des taxes, de la TVA, des choses comme ça, a posteriori. Mais enfin, ça permettrait aussi de faire tourner un certain nombre d'activités, et pas que le bâtiment, d'ailleurs.
Donc là, c'est une idée, hein. Ça, c'est vrai que la défiscalisation, ça pourrait être une solution. Quand le gouvernement dit que, ils ont augmenté le budget alloué à MaPrimeRénov, bon, c'est déjà bien, mais pour vous, c'est pas suffisant.
Non, parce que c'est encore faire des chèques et ne pas vraiment proposer des solutions pérennes. Le gouvernement n'est pas là forcément pour aider tout le temps et s'embêter directement. Je pense qu'ils ont fait après au moment du Covid et un peu après beaucoup d'efforts là-dessus. Mais si on veut être un économiste correct, enfin si on veut bien calculer les choses, il faut quand même parler. Moi, je parlerais plus de défiscalisation plutôt que d'aide comme ça. Aider tout le temps tout le monde. On peut pas être désassisté dans notre pays, ça marche pas, quoi. Parce que derrière, il va bien falloir rembourser tout ça.
Oui, c'est vrai.
Il vaut mieux, je pense, parler en défiscalisation et donc en remettant en route la machine qui est en train de se gripper. Pour que tout le monde y trouve son compte. Les pouvoirs publics, bien sûr.
Oui, bien sûr. Vous qui êtes en lien direct avec les entrepreneurs du bâtiment, dans quel état d'esprit sont-ils?
Oui. Ils sont dans mon état d'esprit, c'est-à-dire inquiets. Je vous dis, il y a de l'activité, mais on est quand même inquiets sur l'année 2024. On reste des gens, nous, dans le bâtiment, des gens toujours très, très positifs et on essaye de s'adapter en permanence. Et je pense qu'on nous en demande beaucoup et il y en a beaucoup qui arrivent à s'adapter aujourd'hui, mais ça devient difficile de s'adapter. On nous demande de nous numériser à fond, et ce qui n'est pas forcément très facile pour des petites entreprises parce que là aussi, c'est beaucoup d'investissement. Et puis, il faut des gens qui nous aident, il faut des partenaires extérieurs, etc. Donc, c'est de l'investissement. Pour l'investissement, il faut avoir de la monnaie. Et là, pour l'instant, comme on est inquiet, c'est un peu court. Les maîtres d'ouvrage nous disent aujourd'hui qu'ils vont avoir du mal à enclencher des rénovations, c'est ce que je disais tout à l'heure. La rénovation énergétique, qui pourrait être un vrai marché porteur, comme je vous disais, ne décolle pas forcément à la vitesse à laquelle elle devrait décoller, mais ça fait des années qu'on en parle. Ça fait plus de 10 ans qu'on demande au gouvernement de faire quelque chose pour faire de la rénovation énergétique. Et aujourd'hui, bon, bien sûr, ils ont lancé des choses. Je pense que n'importe quel député aujourd'hui dirait qu'il y a des lois, il y a la loi qui vient de passer pour aider un peu tout ça, mais c'est pas suffisant. Ça n'incite pas les gens à vraiment mettre en route une rénovation énergétique importante, enfin, qui est un sujet vraiment important, quoi. On est tous inquiets.
Ben merci infiniment Edouard Durier pour cette interview. En tout cas, on retient bien que le mot pour résumer, c'est l'inquiétude, vraiment.
Le Mac de Limo revient avec Opinion System, promis, et bien ici.
C'était Strangers de Kenya Grace, une musique qu'on aime écouter le matin pour se réveiller.
Le Mac de Limo continue avec Opinion System, promis, et bien ici.
De retour dans le Mac de Limo, on est ravis d'être avec vous comme chaque vendredi. Et cette semaine a eu lieu le congrès HLM de l'USH, l'Union Sociale pour l'Habitat. C'était à Nantes pendant 3 jours. Et justement, hier, nous avons eu par téléphone Fabrice Coustet qui était sur place pendant les 3 jours. On écoute tout de suite. Bonjour Fabrice Coustet.
Bonjour Bernice.
Vous êtes en direct de Nantes pour le congrès HLM de l'USH, l'Union Sociale pour l'Habitat. Comment ça se passe? Donc là, c'est le troisième jour, troisième et dernier jour. Comment ça s'est passé? Parce que c'est vrai que Radio Immo était présent pour cet événement de grande ampleur, puisqu'il y a eu de nombreux politiques, de nombreux acteurs du secteur. Un mot pour résumer peut-être ces trois jours?
Un mot pour résumer, c'était intense, une fois de plus, 83e congrès de l'USH, des HLM. C'est vrai que c'est un monde en soi qu'on connaît peut-être un petit peu moins du côté du grand public. Ça concerne 5,2 millions de personnes qui sont logées par les bailleurs sociaux. Et puis, il y a aussi une longue liste d'attentes. On parle de plus de 2 millions de personnes qui sont en attente. Le problème, c'est que, vous connaissez le contexte, on construit de moins en moins. Et ce n'est pas uniquement les promoteurs privés, ça touche aussi les bailleurs sociaux. C'est d'ailleurs sociaux qui ont souvent un rôle contracyclique en cas de crise. Quand le privé n'arrive plus à construire, c'est eux qui arrivent à construire. Mmh. Et voilà, patatras, c'est compliqué pour eux aussi. Pourquoi, Bérénice? Tout simplement parce que la ressource, l'argent coûte de plus en plus cher. Et c'est qu'ils se financent face au taux du livret A, ou plutôt ils ont des prêts indexés sur le livret A. Et là, eh bien, ça a grimpé. Et donc, c'est compliqué pour eux aussi. Voilà le contexte un petit peu de crise. Mais, eh bien, les forces vives sont là. Et il y a eu beaucoup d'échanges, ainsi que le passage de plusieurs ministres.
Alors justement, quel ministre? C'est vrai qu'il y a eu le ministre du Logement, qu'on écoutera d'ailleurs sur Radio Immo dans quelques instants. Il y a eu aussi Christophe Béchu, c'est ça?
Voilà, premier jour, c'était Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires de France, qui est passé, qui a introduit ce congrès de l'USH. Et puis, il va être clôturé, c'est vrai, par Patrice Vergriete, le ministre du Logement, qui est passé également, a fait une petite conférence de presse improvisée. C'était hier soir et je pense qu'on l'écoutera tout à l'heure, effectivement, sur les passoires thermiques. Vous allez voir qu'il ne souhaite pas, effectivement, déroger au calendrier, conformément à ce qu'on avait entendu au petit cafouillage rétropédalage oui. De Bruno Le Maire. On en avait parlé la semaine dernière, Marine.
Alors justement, là, vous évoquiez la période qui est compliquée donc pour les particuliers, pour les promoteurs, pour les bailleurs sociaux. Dans quel état d'esprit ils étaient lors de ce salon, vous qui les avez côtoyés, vous qui avez discuté avec eux, comment ils étaient? Quelle était l'ambiance?
Finalement, ils ont les mêmes problématiques que les promoteurs privés. On est dans un contexte très compliqué où on a une crise multifactorielle. Et bien, de l'aveu de certains bailleurs sociaux, on n'avait jamais vu ça. C'est-à-dire que même la dernière crise de 2008, elle n'était pas aussi dure. Là, on a effectivement une inflation normative, c'est-à-dire en gros des règles qui s'empilent, SRU, LEZAN, donc le zéro artificialisation net, c'est-à-dire moins de possibilités de construire. En même temps, eh bien, des Français et des gens qui ont besoin de se loger. Donc on est dans cette crise, il faut répondre à tous, et certains parlent de véritables bombes sociales, c'est-à-dire que si on ne traite pas maintenant urgemment le problème, eh bien on risque d'avoir des gilets jaunes du logement. Donc on attend avec impatience effectivement les annonces peut-être de Patrice Vergriete cet après-midi.
Qui avez-vous reçu, pour finir peut-être, sur votre plateau, sur le plateau Radio Immo? Quelles sont les personnalités, les personnes que vous avez reçues pour expliquer à nos auditeurs? D'ailleurs, je vous rappelle que tous les podcasts sont à retrouver sur notre site.
Oui, on a eu évidemment beaucoup d'acteurs de ce monde du HLM, beaucoup d'acteurs politiques également. On a eu des acteurs aussi du privé, mais qui lancent leur filiale Habitat Social. C'est notamment le cas de Foncia, qui lance une nouvelle filiale Foncia Habitat Social, qui sert de son ingénierie pour se dédier aussi au monde des bailleurs sociaux, pour les aider, et ça risque de plutôt bien marcher. Et puis on a eu aussi les grands noms, puisqu'ils sont là dans un rôle spécifique, les promoteurs privés tels que Next City, qui nous a expliqué que ils restaient, mais qui auraient quand même sans doute de la casse. Pour eux, ça va, parce qu'ils ont aussi d'autres filières au sein du groupe, mais donc il faut autre chose que du logement. Notamment Vinci, notamment SH, mais c'est plus compliqué aussi pour les pure players tels que Next City, et il y aurait sûrement de la casse pour les petits promoteurs. Je voulais vous dire enfin que on avait aussi des podcasts un petit peu plus techniques pour ceux que ça intéresse, puisqu'on était également présent avec la petite sœur de Radio Immo, Radio Territoria, sur le stand du gouvernement avec la DGALN. Et ça, c'est assez technique et c'est intéressant de voir comment les rouages de l'État, ou plutôt des différentes administrations, s'emparent des sujets, ces sujets du logement, de l'aménagement, de comment habiter ou cohabiter ensemble, avec des problématiques extrêmement pointues, mais très intéressantes. Donc, je vous encourage à aller voir non seulement Radio Immo, mais aussi Radio Territoria.
Eh bien, merci beaucoup, Fabrice, pour ce point sur le congrès HLM de l'USH. En tout cas, vous nous avez manqué en studio.
Eh bien, on revient la semaine prochaine.
Avec grand plaisir.
À très bientôt, Bérénice, et bonne journée à tous.
Au revoir, Fabrice.
Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici.
Voilà pour le congrès HLM de l'USH, l'Union sociale pour l'habitat, qui a eu lieu à Nantes cette semaine et que nous avons couvert avec Radio Immo. La semaine prochaine, nous partirons à Lyon, puisque je vous rappelle qu'il y a Polytech, un événement que nous couvrons. Alors Polytech, c'est le plus grand salon des solutions environnementales. Ça aura lieu à Eurexpo du 10 au 13 octobre à Lyon et nous y serons évidemment. Nous aurons un plateau Radio Immo et toutes nos interviews, toutes nos conférences, toutes nos tables rondes seront à retrouver sur notre site radio.imo, évidemment, en intégralité. Polytech, ce sera l'événement vraiment incontournable pour tous les acteurs de l'environnement et de la transition écologique et énergétique. Rendez-vous donc la semaine prochaine du 10 au 13 octobre.
Le Mac de l'Immo, Thomas de Champsavin, l'instant Greenlock.
Bienvenue dans l'instant Greenlock. Je suis, comme chaque semaine, avec Thomas de Champsavin, cofondateur de Greenlock, le logiciel de gestion de l'activité locative. Bonjour Thomas.
Bonjour Bérénice.
Alors, je rappelle que Greenlock, c'est une plateforme qui facilite la collecte des candidatures pour un bien en location et qui accompagne le candidat choisi jusqu'à la signature du bail. Aujourd'hui, nous répondons à une question d'un auditeur. C'est Georges qui demande s'il est obligatoire de préciser la surface habitable d'un logement en location.
Alors, cette question arrive régulièrement. Effectivement, depuis 2009, le législateur, dans le but de protéger les futurs locataires, a instauré l'obligation pour le propriétaire bailleur de présenter un diagnostic précis de la surface habitable. Cette notion est inscrite dans chaque contrat de location pour l'habitation, vide ou meublé. Et celle-ci est définie en fait dans le code de construction et de l'habitation. La définition d'une norme de surface locative offre aux locataires, comme Georges, un outil pour avoir une référence précise du prix dans le secteur de celui-ci. Et également d'obtenir un diagnostic de performance énergétique, dite DPE, fiable. Sujet d'actualité à la vue de la loi Climat et Résilience instaurant cette nouvelle norme de décence énergétique. En pratique, elle se calcule en mesurant la surface planchée, déduite des surfaces occupées par les murs, les cloisons, les marches, les cages d'escalier, les embrasures de portes et autres fenêtres, ainsi que les parties du logement d'une hauteur inférieure à 1,80 m. Donc en fait, tout ce qui est habitable. Que se passe-t-il lorsque le diagnostic est incorrect ? Lorsque la surface habitable réelle du logement est inférieure de plus de 5% à celle mentionnée dans le contrat de location, le propriétaire bailleur, à la demande du locataire, supporte une diminution du loyer proportionnelle à l'écart constaté, tout simplement. Le plus prudent, donc, on vous conseille de demander l'attestation de superficie en même temps que les autres diagnostics obligatoires, DPE, diagnostic d'état des risques, et les diagnostics électricité, gaz et plomb, pour s'assurer de la précision de celui-ci.
Le Mac de l'Immo revient, avec Opinion System, promis, et bien ici. I saw you, you looked
C'était Famous Blue Raincoat de Marissa Nadler. Alors, je sais que j'ai un très très bon accent anglais. En tout cas, c'est une musique que vous pouvez découvrir dans la série 66.5 qui est disponible sur Canal+ en ce moment.
Le Mac de l'Imo, la start-up Imo, Jean-Michel Royot.
De retour dans le Mac de l'Imo et tout de suite, c'est l'heure de découvrir une nouvelle start-up. Grâce à Jean-Michel Royot, chaque semaine, nous découvrons une start-up Imo. Aujourd'hui, c'est Adapsia et nous allons écouter Constance Leblanc. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour à toutes et à tous. Ce matin, je suis absolument ravi d'accueillir Constance Leblanc. Bonjour Constance.
Bonjour Jean-Michel.
Comment allez-vous ?
Eh bien, ça va.
En
ravi d'être là.
Bon, pour nous présenter votre belle start-up qui s'appelle Adapsia, c'est bien ça ?
Tout à fait.
Alors, on va commencer par la première question traditionnelle. Adapsia, c'est quoi la promesse d'Adapsia ?
Alors, la promesse d'Adapsia, c'est d'aider les personnes qui sont en perte d'autonomie à rester chez elles le plus longtemps possible, en sécurité et autonome au maximum.
Alors, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler de vieillissement, d'accompagnement, de bailleurs HLM, de collectivités locales évidemment, et donc et du service que rend Adapsia. Alors on a envie d'en savoir plus, donc dans notre infinie gentillesse sur Radio Imo, on va vous donner une minute avec un petit chronomètre dans les oreilles pour tout savoir. Donc vous avez, Constance, une minute pour tout nous raconter, depuis quand vous existez, combien de salariés vous avez, où est-ce que vous intervenez, avec qui, quelles sont les typologies de clients. Après, on reviendra sur vos références. Hein. Mais voilà, on veut tout savoir, vous avez tout loisir de tout nous raconter en une minute. Allez, c'est à vous.
Nous avons fondé Adapsia avec Charlotte, mon associée, en 2018. On est une entreprise sociale et solidaire avec l'agrément ESUS.
ESUS, voilà.
Aujourd'hui, nous avons donc 10 salariés. Nous avons 280 ergothérapeutes affiliés. Donc, nous pouvons intervenir sur toute la France en fonction des demandes.
Donc, 280 ergothérapeutes qui travaillent avec Adapsia et que vous pouvez déclencher,
commissionne en fonction de la demande. Et alors, juste avant de donner un peu plus de détails sur Adapsia, je voudrais déjà juste rappeler ce que c'est qu'un ergothérapeute, parce que c'est un professionnel qui est très peu connu et pourtant très utile. Donc c'est un professionnel de santé qui est spécialisé dans l'autonomie de la personne. Ça peut être vraiment d'accompagner toutes les personnes, c'est-à-dire un enfant, un adulte, une personne âgée. Et nous, on s'est spécialisé dans le maintien à domicile. Et donc finalement, notre client principal reste toujours la personne elle-même, même si la demande vient du bailleur, de la mairie, de la mutuelle. C'est toujours la personne qui est concernée que l'on accompagne. Après, concernant notre business model, Adapsia reste l'interlocuteur unique pour vraiment prendre en charge la mission de A à Z.
Pour tous ces donneurs d'ordre que sont les bailleurs, voilà, ou les collectivités ou les,
voilà,
mutuelles.
Ouais. Donc du coup, le client vraiment a un seul contact, c'est nous, et les ergothérapeutes ont un seul contact, c'est nous aussi. Et nous, on se charge vraiment de gérer la mission, de vérifier que tout se passe bien et qu'on soit dans les délais. Et pour ça, on utilise une plateforme numérique que l'on a créée et qui nous permet de suivre les missions au jour le jour.
C'est très clair, merci.
Une minute,
on est
bon.
Parfait. Et du coup, la troisième question, c'est qui vous fait confiance ? Quand on a préparé l'émission, vous m'expliquiez que vous aviez des belles références, donc je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait partager avec nos auditeurs. Alors, qui fait confiance à Dapsia aujourd'hui ?
Alors, on travaille avec beaucoup de bailleurs sociaux qui nous sollicitent dans la politique d'accompagnement qu'ils ont pour leurs locataires vieillissants ou en perte d'autonomie.
Il faut les encourager parce qu'effectivement, ils ont une partie du parc qui est véritablement concernée.
Aujourd'hui, c'est un vrai enjeu. On sait que la population vieillit et les bailleurs sociaux sont concernés.
Ils mettent les moyens pour aider les personnes à rester le plus longtemps possible.
Voilà, alors de plus en plus font en sorte de pouvoir accompagner leurs locataires au mieux. Donc nous, en tant qu'ergothérapeute, on va intervenir pour donner des conseils sur les travaux, sur les aides techniques qui vont vraiment être personnalisées en fonction de la personne.
Alors, avant d'arriver aux quelques noms de belles références, là, ce que j'ai compris aussi, c'est que ça ne se résumait pas juste à transformer la baignoire en douche à l'italienne.
Voilà, c'est ça. En fait, on est complémentaire avec la société de travaux qui, elle, va pouvoir faire ce type d'aménagement.
Quelques exemples de préconisations que vous donnez.
L'intérêt de l'ergothérapeute, c'est vraiment de faire une évaluation globale de la personne. Donc, en effet, peut-être qu'on va changer la baignoire en douche, mais pas que. C'est-à-dire qu'on va aussi se rendre compte qu'elle a des difficultés pour se relever de son canapé. Donc, on va pouvoir lui rehausser son canapé ou qu'elle a des difficultés pour ouvrir ses bocaux. Donc à ce moment-là, on va lui conseiller des aides techniques qui vont l'aider à cuisiner et à être autonome sans devoir demander de l'aide à quelqu'un. Donc vraiment, en fait, on va regarder le quotidien en entier et on va pouvoir préconiser donc soit des travaux, soit des aides techniques qui vont faciliter la vie de tous les jours.
Allez, donnez-nous quelques noms maintenant.
Alors, où ça ? Parce qu'à Paris, on a des marchés, donc on travaille avec Paris Habitat, avec la RIVP, avec Emmaüs Habitat, donc on a plusieurs bailleurs sociaux, et aussi en province, puisqu'en province, on travaille avec Aliad Habitat, Périgord Habitat, Bourg Habitat, voilà.
Donc aussi bien des grandes structures comme Paris Habitat ou Aliad, qui est groupe... Groupe Action Logement, je le rappelle, mais également des offices plus locaux pour lesquels les besoins sont aussi importants et leur engagement aussi fort.
Oui, c'est ça, parce qu'après, c'est les moyens de chacun, mais on sent bien que vraiment la volonté, que ça soit d'une grosse structure ou pas, c'est de pouvoir accompagner au mieux leurs locataires. Et ce qui est super, parce qu'en fait, les locataires ont vraiment le sentiment d'être écoutés lorsqu'ils ont un ergothérapeute qui vient chez eux. Ils ont le sentiment que le bailleur prend en compte sa demande.
Et le côté digital vous permet d'intervenir sur toute la France, dans différentes villes, d'une manière...
Rapide surtout, en fait. C'est l'intérêt d'Adapsia, c'est que du coup, comme on est l'interlocuteur unique, on peut intervenir très rapidement dès qu'on a une intervention.
Sur différents sites et différentes villes.
Sur différents sites. Et surtout, c'est qu'en plus, on garantit le même type d'intervention. Parce qu'on peut, pour un bailleur, avoir plusieurs ergothérapeutes qui vont intervenir, mais nous, en fait, on va pouvoir, à chaque fois, il aura le même type de compte-rendu, la même trame. Donc pour lui, ça sera quand même beaucoup plus simple.
Et efficace.
Voilà. Alors après, on travaille aussi avec des communes.
Oui.
Par exemple, Vélizy, Malakoff, ou des institutionnels comme des mutuelles, des caisses de retraite, qui, eux, vont solliciter.
Des noms. Donnez-nous des noms.
On travaille pour Agir Carco, via le réseau Domiserve. Et eux, en fait, ils vont nous solliciter pour des bénéficiaires qui vont avoir besoin de conseils, pareil, pour le maintien à domicile.
Et vous-même, vous êtes ergothérapeute ?
Et moi-même, je suis ergothérapeute depuis 19 ans, d'où l'idée de créer Adapsia.
D'où le côté passionné qu'on ressent dans, dans votre engagement.
Je dis souvent, l'ergothérapie, c'est dans mon cœur, c'est comme ça.
C'est super. Bravo Constance.
Ça fait 5 ans qu'on a créé Adapsia et on est passé au début de 80 personnes accompagnées à 3500 aujourd'hui. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'on est rentable sans lever de fonds. Et pour le coup, avec l'enjeu du grand âge, je pense qu'on a de belles années devant nous.
Des startups rentables, ça c'est bien aussi, parce que certaines en ce moment rencontrent quelques petites difficultés compte tenu de la conjoncture immobilière. Bravo Constance, comment on fait pour vous contacter ?
Alors, soit sur notre site internet, donc adapsia.fr, et donc il y a un lien de contact, ou sinon il y a mon mail ou mon numéro de téléphone.
Ou sur LinkedIn.
Voilà, ou sur LinkedIn. Donc, que ça soit Charlotte Leblanc ou Constance Leblanc, vous pouvez nous contacter avec plaisir.
Parfait. En tout cas, on reprendra ces éléments dans un post dans quelques jours. Merci beaucoup, Constance.
Merci.
Bravo pour Adapsia. Et puis, on aura l'occasion de vous accueillir dans quelques temps pour que vous nous racontiez la suite de votre développement, en particulier en partenariat avec les bailleurs HLM. Voilà, c'était Adapsia, la start-up de la semaine. Merci à toutes et à tous et à très bientôt.
Le Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion System. Promis, t'es bien ici.
Cette première partie du Mac de l'Immo touche à sa fin. Je rappelle que la mission est à réécouter sur notre site radio.immo et également sur tous les agrégateurs de podcasts, Deezer, Spotify et compagnie. Tout de suite, nous allons écouter la chanson de notre invité, la première chanson, puisqu'il est aux commandes de la programmation musicale. Il s'agit de Take a Walk on the White Side de Lou Reed. Et juste après, nous recevrons donc Denis Moscovici, qui est senior advisor pour l'IEIF et qui va nous parler de la 5e édition de l'étude sur le marché français du financement de l'immobilier des professionnels. Voilà, que l'IEIF a fait en partenariat avec l'IFPIM. On se retrouve juste après cette musique.
Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doo 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 doo.
Mac de l'Immo, en partenariat avec Opinion System. Promis, t'es bien ici.